Il est 8h.
Je suis né dans le football. Je savais très bien qui j'allais devenir. Mais je ne savais pas que je serais cocaïnomane.
Pouvait-on faire encore mieux que Dieu lui-même ? Maradona s'était posé la question, lui que l'Argentine voit comme le plus grand footballeur de tous les temps. Buteur magnifique, génie inspiré des terrains. Son pays pleure un héros national. Nous serons à Buenos Aires dans un instant avant d'entendre Didier Roustan en direct, le journaliste qu'il connaissait depuis près de 40 ans. Dans ce journal, le but par but de Jean Castex, attendu ce matin sur les auto-écoles, les agences immobilières et les cultes dans ce déconfinement. Et puis, un autre héros, un Français, le grand résistant Daniel Cordier, aujourd'hui aux Invalides.
Juste après ce journal, la gestion de l'épidémie, les attentes. Alors que Jean Castex prend la parole ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Un but de légende à l'image d'un homme devenu ce jour-là un héros pour l'Argentine. Il dribble un premier joueur, un deuxième, il parcourt 60 mètres, ballon au pied, il se défait d'un troisième joueur, puis du gardien anglais. Il marque, c'est le but du siècle.
À lui tout seul, Maradona, le fantassin, vient de rendre son honneur à l'Argentine. Nous sommes alors 4 ans après la guerre des Malouines, perdue contre l'Angleterre.
Et savez-vous ce que dit l'arbitre de ce match, qui 5 minutes plus tôt n'avait pas vu la main de Dieu, ce but de la main de Maradona ? Cet arbitre, c'est un Tunisien, Ali Benasser. J'ai eu la fierté de participer à ce chef-d'œuvre, dit-il aujourd'hui à 76 ans.
Ce chef-d'œuvre que personne n'a oublié dans la capitale argentine. Bonjour, Audvilliers Moriamé.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 à Buenos Aires, où la mort de Diego Maradona est un drame national.
Oui, les supporters de Maradona se sont rassemblés par milliers dans la soirée près de l'obélisque en plein cœur de la capitale pour chanter ensemble des slogans en mémoire de leur idole décédée ce mercredi. Nicolas Gomez, 31 ans, visiblement ému, porte un t-shirt à l'effigie de Diego Maradona.
Je suis maradonien de naissance. Diego, c'est tout pour moi. Il représente plus que ma famille, que ma propre mère. Aujourd'hui, une partie de moi est morte, une grande partie de ma vie. Je suis triste, mais je sais qu'il va reposer en paix parce qu'il a tout donné à l'Argentine et que les gens l'aiment.
Drapeau argentin bleu ciel et blanc à la main, Myriam Potrichot, 52 ans, tenait elle aussi à se rendre ici en famille pour saluer la mémoire du meilleur joueur de l'histoire du pays.
Diego représente l'Argentine. On voyage et quand on dit qu'on est argentin, on nous cite tout de suite Maradona. Il incarne le peuple argentin. Il avait ses défauts en tant que personne, bien sûr, mais en tant que joueur de foot, c'était une idole totale.
Dans la soirée, depuis leur fenêtre, les Argentins ont applaudi vigoureusement en hommage à Diego Maradona. Il devrait aussi être des milliers à défiler à la Casa Rosada, le palais présidentiel, d'ici quelques heures. C'est là qu'aura lieu la veillée funèbre de Diego Maradona avant son enterrement.
Audvilliers Moriamé à Buenos Aires pour Europe 1.
Alors, la star absolue qu'était Diego Maradona avait aussi connu les excès de la gloire, la drogue en particulier, son addiction à la cocaïne.
Et il en était pleinement conscient dans ses conversations livrées en 2008 au cinéaste Emir Kusturica.
Quel joueur j'aurais pu être si je n'avais pas été accro à la coke ? On a perdu un très grand joueur. Je suis né dans le football. Je savais très bien qui j'allais devenir. Mais je ne savais pas que je serais cocaïnomane. Je savais que j'achèterais une maison à ma mère, que je me marierais, que je fonderais une famille, que je parcourrais le monde, que je gagnerais la Coupe du Monde. Je savais tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai cette culpabilité en moi.
Loin de cette culpabilité, il y a ces mots de celui qui n'est pas un dieu, mais un roi, Pelé, le Brésilien. J'espère qu'un jour nous pourrons jouer ensemble au ciel, dit-il. Pelé, numéro 10, comme Maradona, comme Zidane, Platini, puis comme Messi, autre Argentin, plus grand de 5 cm que Maradona, du haut de son 1m70.
Et le journaliste Didier Roustan est avec nous en direct. Bonjour Didier Roustan.
Bonjour.
Alors avant de parler de l'homme que vous connaissiez depuis près de 40 ans, je vais vous proposer de trancher ce débat peut-être éternel. Le plus grand joueur de tous les temps, de l'histoire, c'était lui ?
Ah, c'est difficile, parce que j'ai connu Pelé aussi, et Pelé était un monstre footballistique. C'est comme choisir entre papa et maman, c'est compliqué quand l'un ou l'autre, et que j'étais gosse, me posait la question. J'avais du mal à répondre. Mais ce sont les papas et mamans du football, bien sûr.
Les papas et mamans du football. Didier Roustan, vous aviez rencontré Maradona dès 1982. Vous aviez lancé plus tard cette aventure avec lui et Eric Cantona d'un syndicat international des joueurs. Racontez-nous votre Maradona. Au-delà du football, quel homme était-il ?
Alors, durant le syndicat, j'allais deux fois par mois à Buenos Aires, et là, effectivement, nous avions des rapports qui n'étaient pas professionnels, enfin, si, par rapport au syndicat, mais aussi des rapports intimes où je pouvais aller manger chez lui ou au restaurant ou le voir dans un autre cadre et aux côtés de son premier cercle. C'était quelqu'un de très simple, de très humble, assez timide quand il ne connaissait pas trop les gens, contrairement à l'arrogance que parfois il pouvait dégager, notamment sur un terrain ou même un petit peu en dehors. C'était quelqu'un de profondément vrai, sincère, très proche du peuple, touché par toute forme d'injustice. Dans la tradition sud-américaine, hein, il avait d'ailleurs un tatouage du Che sur l'épaule. Et quelqu'un de révolté, mais aussi avec des fragilités. Alors, quand j'entends l'extrait de l'interview qu'il donne à Costa Rica, j'ai eu une discussion avec lui par rapport à ça, parce qu'on en avait discuté, donc c'était quelques années auparavant, et j'étais pas d'accord avec lui, parce que je pense que, je dis pas qu'il avait besoin de ça, il est entré dans cette addiction infernale suite aux souffrances qu'il endurait par rapport à une fracture terrible dans un match Barcelone-Bilbao. Mais je trouve que Maradona avait besoin de cet excès, parce que Maradona est un génie, et les génies brûlent leur vie, c'est comme ça. Il ne pouvait pas avoir une vie normale, même s'il explique que tout jeune, il savait qu'il serait un grand footballeur, qu'il fonderait une famille, etc. Et tout. Maradona appartient au peuple, Maradona est plus qu'un footballeur.
Et c'est une personnalité.
Ça cadre finalement avec ce qu'il était. Il ne pouvait pas être dans la normalité.
Personnalité entière, en tout cas.
Quelqu'un de normal, puisque c'était un génie.
Puisque c'était Diego Maradona. C'était de Dieu, c'est de Dieu dont on parle, a priori. Merci beaucoup, Didier Roustan, en direct ce matin dans le journal de 8h d'Europe 1.
Il y a parfois une pointe de lyrisme, forcément, ce matin, dans les hommages, comme Emmanuel Macron qui livre deux pages de communiqué. « La main de Dieu avait déposé un génie du football sur Terre », écrit le président français. Elle vient de nous le reprendre d'un dribble imprévu qui a trompé toutes nos défenses.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis le début de cette matinale, chef du service des sports d'Europe 1. Après le joueur, il y a eu l'entraîneur Diego Maradona.
Et quel que soit son charisme, ce ne fut pas du tout le même succès, Jean-François.
Oui, et pourtant tout avait bien commencé. Hein. En 2008, Maradona prend la sélection argentine comme une évidence. Ses causeries d'avant-match pleines de ferveur patriotique font pleurer le vestiaire. Ses joueurs sont à bloc, gonflés d'orgueil d'être dirigés par la référence ultime. Et ça marche au début du moins. Un soir de février 2009, Maradona vient même en France, à Marseille, où je me trouve, la ville où il a failli jouer. Il est accueilli en héros, le jeune Léo Messi marque un but. Les Argentins gagnent 2-0. Je me suis senti comme à la maison, dira-t-il. La suite, hélas, est plus compliquée. Maradona se braque, il insulte la presse, les résultats ne suivent pas, il est limogé après la Coupe du Monde 2010. En fait, il voulait sans doute trop que ses joueurs lui ressemblent. Son niveau d'exigence technique et mentale était très élevé, sans doute trop. Personne ne peut être Maradona et c'est pour ça qu'il est si difficile pour les anciennes gloires d'être aussi de grands entraîneurs, parlez-en notamment à Michel Platini. Courant le cacher au fil des saisons et du yo-yo de son état de santé, Maradona jouera au Globetrotter, un peu pathétique parfois, aux Émirats, en D2 mexicaine. Et même en Biélorussie, où il est un éphémère président d'honneur, mais oui, du club de Brest-Litovsk. Tout le monde veut être sur la photo avec lui, mais cela ne dure jamais longtemps. Son dernier poste symbolique lui aura permis de revenir à la maison, au Gimnasia La Plata, à Buenos Aires. Il ne marchait quasiment plus, mais rien que par sa présence, les supporters marchaient sur l'eau. Non, Maradona n'était pas le plus grand entraîneur, mais qu'est-ce qu'il était entraînant.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Si yo fuera
Maradona. Maradona, à qui des artistes ont dédié des fresques, des statues et des chansons, comme ici Manu Chao, tout au long de sa vie.
Et je renvoie tous nos auditeurs à cette page spéciale où vous retrouverez tous ces hommages entendus ce matin. Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, le journaliste Pierre-Louis Basse, nos archives sonores, tout cela c'est sur europe1.fr. 8h10, l'actualité en France se résume à quelques questions que doit aborder Jean Castex ce matin à 11h.
Conférence de presse avec les ministres de l'économie, de la culture, de la santé. Aurélie Herbemont, c'est la suite de l'intervention du président mardi soir.
Et oui, à Jean Castex d'éclaircir certains points d'ici ce week-end. Les auto-écoles et agences immobilières, dont le sort était en suspens, devraient rouvrir samedi, comme les autres commerces. Il doit aussi arrêter la jauge pour les cultes. Les responsables religieux veulent plus que les 30 personnes annoncées par Emmanuel Macron, mais certains au gouvernement plaident pour un assouplissement uniquement à partir du 15 décembre, en clair quand on passera au couvre-feu. Moment crucial pour cinémas et théâtres qui attendent un arbitrage sur l'horodatage des billets qui serviront de justificatif de déplacement. La tolérance pour les séances finissant un peu après 21h est en suspens. Mais Jean Castex n'aura pas réponse à tout ce matin. Le ski à Noël, ça ne sera pas tranché aujourd'hui, ni l'isolement des malades. Le président a ouvert la porte à un système contraignant, mais le principe de sanction ne fait pas l'unanimité au sein même de la majorité. Au gouvernement, on évoque un débat parlementaire en décembre et un projet de loi en janvier. Idem pour le comité citoyen sur le vaccin. À ce stade, c'est toujours en cours de calage.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Concernant les stations de ski, l'Allemagne va demander qu'elles restent fermées dans toute l'Europe jusqu'au 10 janvier. Ce sera cet après-midi l'hommage national à Daniel Cordier, ce grand résistant qui fut le secrétaire de Jean Moulin, 15h30 aux Invalides à Paris.
Bonjour Aude Leroy.
Bonjour.
Avec le contexte sanitaire, le président a voulu s'astreindre à une assistance d'une trentaine de personnes qui ont donc été choisies avec une symbolique très forte.
Oui, à commencer par un invité important, Hubert Germain, âgé lui aussi de 100 ans. Il est le dernier compagnon de la Libération en vie. Alors après une messe en présence de sa famille, ce sont 6 élèves de l'école de Saint-Cyr qui déposeront le cercueil de Daniel Cordier à même le pavé, incarnant ainsi l'humilité de l'homme face à la mort. Autre symbole, le drapeau du 44e régiment d'infanterie, celui des services secrets auquel appartenait l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Un étendard important au moment où la DGSE recrute beaucoup de jeunes qui pourraient être inspirés par l'exemple des compagnons de la Libération. Puis Emmanuel Macron prendra la parole. Et c'est au son de la marche des tambours que le cercueil quittera la cour des Invalides. Daniel Cordier sera enterré demain matin au cimetière du Père-Lachaise. C'était son choix. Sa hantise était d'être le dernier compagnon en vie, auquel cas sa dépouille aurait été enterrée dans la crypte du Mont-Valérien, lui qui trouvait cette crypte trop froide.
Aude Leroy pour Europe 1. Et puis Mathieu, revenons une seconde au football avec ce résultat qui fait rentrer Marseille à sa façon dans l'histoire de la Ligue des Champions. 13e défaite d'affilée dans cette compétition, un record. C'était hier soir 2-0 à domicile face à Porto.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.